Catherine Herzberg, bonjour.
Bonjour.
Catherine Herzberg, vous êtes auteure de Fresnes, histoire de fou, témoignant du sort de personnes qui ont des troubles mentaux en prison. Et vous êtes auteur aussi de cet ouvrage « Mais pourquoi sont-ils pauvres ?» Alors, dans nos sociétés riches et dites développées, comment se fait-il que la situation de 8 millions de personnes pauvres ne fait pas scandale ? Comment se fait-il qu'au regard des richesses existantes, nos sociétés ne trouvent pas intolérable cette situation ?
Je vais y aller tout de suite en disant que pour moi, il n'y a pas 8 millions de personnes pauvres, il y en a beaucoup plus. Et mon tour de France, où j'ai posé la question aux Français non pauvres, soi-disant non pauvres selon le seuil officiel, qui étaient pauvres, ils disaient mais il y a 25% des Français qui sont pauvres, il y en a qui montaient jusqu'à 50%. Je crois que ça ne fait pas scandale parce que la pauvreté s'est totalement détachée de la question politique et de l'organisation collective de la société. Et qu'elle est désormais regardée comme une question individuelle qui ressort de chaque individu, des efforts que chacun fait pour trouver sa place dans la collectivité, et qu'à partir du moment où c'est de l'ordre de la responsabilité individuelle, il n'y a pas raison de se scandaliser collectivement. Voilà, ce sera un début de réponse.
À quoi est due la pauvreté dans l'esprit des gens ? Comment perçoivent-ils justement cette situation de pauvreté ? Quel regard projettent les personnes que vous avez interviewées dans votre livre sur la situation des personnes pauvres ?
Je ne pourrais pas vous répondre comme ça aussi rapidement parce que les réponses sont évidemment divergentes. On pourrait les classer en deux groupes, c'est-à-dire toute une partie, presque la majorité, qui répond que les causes de la pauvreté sont des causes individuelles liées à la fainéantise, à la bêtise, au manque de niaque. Voilà, et donc ça, c'est au sort aussi, hein, bien sûr, à la fatalité, c'est la faute à pas de chance. Et puis à la nature aussi, il y a une naturalisation de la pauvreté, c'est-à-dire du phénomène social. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des pauvres et des riches, quoi. C'est la roue de la fortune, mais de la fortune au sens du destin, hein, pas de la fortune au sens de l'argent, là, pour le coup. Donc, il y a toute une partie des gens qui répondent ça. Je dirais que c'est la majorité. Et il y a une grosse minorité, mais majorité, je ne sais pas, je n'ai pas fait les statistiques, hein. Enfin, moitié-moitié, peut-être, je n'en sais rien, qui dit que, évidemment, il y a une organisation de la collectivité, de la distribution de la richesse, de la distribution du travail, qui reste une éternelle question, qui a été centrale dans les luttes politiques du XXe siècle, et qui ne l'est plus du tout, qui sont des questions qui ont totalement disparu de la sphère publique, ce qui explique aussi, d'ailleurs, cette indifférence. J'ai mené mon tour de France peu de temps avant les élections et on voyait bien comment, d'ailleurs, dans les discours des différents candidats aux élections présidentielles, la pauvreté n'était jamais une thématique, alors qu'elle l'était bien évidemment au cours du XXe siècle. Ne serait-ce qu'à travers le Parti socialiste, incarnait un discours, le Parti communiste évidemment, le Parti socialiste aussi, mais maintenant la pauvreté n'est plus un sujet politique. Il n'y a plus que des pauvres et on les recense.
C'est considéré comme un fait, d'une certaine manière. On s'y est habitué.
C'est pire que ça, je crois. C'est même pas un fait auquel on s'est habitué. C'était une des dernières questions que j'ai posées dans ce questionnaire auquel je soumettais tous mes interlocuteurs. Je leur demandais, vous croyez qu'une société sans pauvres, c'est possible ? Ce qui, à mon avis, est la question majeure du politique depuis toujours. C'est la raison d'être du politique. C'est est-ce qu'une société sans pauvres, c'est possible ? Non pas au sens chrétien du terme, je suis totalement athée, donc je ne suis pas accessible au discours religieux, même si évidemment il a une force très puissante, mais au sens de l'autre comme mon semblable, c'est-à-dire l'inquiétude démocratique pour l'autre. Hein, pas au sens religieux du terme, mais on se rejoint là-dessus, évidemment. Puis si l'autre a la même, comment dirais-je, place dans une démocratie que moi, il doit pouvoir avoir accès aux mêmes droits que moi. Et celui qui est pauvre dans une société d'abondance n'a pas accès à des droits. Il a au mieux accès à des aides, mais ça ne fait pas un individu plein et entier, un individu qui a accès à des aides. Alors, c'est à la fois, quand on posait la question aux gens, est-ce que vous croyez qu'une société sans pauvres, c'est possible ? Et là, j'ai été assez alarmée parce que c'est... Ben non. Eh ben non. parce que c'est anthropologique presque, c'est-à-dire au fondement de toutes les sociétés humaines. Je vous le disais, il y a des grands, il y a des petits, il y a des pauvres, il y a des riches, et puis on est trop nombreux. Alors on est trop nombreux, et comme on est trop nombreux pour qu'il y ait du travail pour tout le monde, ben, il y aura toujours des pauvres, puis il y en aura même de plus en plus. L'idée qu'on puisse penser la collectivité différemment s'il y a moins de travail, répartir la richesse, répartir le travail, d'autres distributions des cartes, une autre place donnée à l'homme dans la société ne se pose plus.
Alors, dans ce cadre-là, la question du travail semble centrale. Catherine Herzberg, dans Le regard posé sur la pauvreté, quelle est la place qui est confiée au travail ?
Le problème, il faut définir ce qu'est le travail, je crois. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire un homme qui travaille ? On travaille pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire dans la constitution individuelle de l'homme, c'est-à-dire dans la constitution de la psyché de chacun, être au travail, et dans la constitution, le travail comme bien collectif, c'est-à-dire collectivement, qu'est-ce que ça veut dire travailler ? Pourquoi ? Pour quelle construction commune ? Et ça s'est complètement perdu, ça devient de l'esclavage, c'est-à-dire... Au fond, ces gens ne veulent pas travailler, ils sont pauvres parce qu'ils ne travaillent pas. J'ai entendu, donc en pleine crise économique quand même, avec 4,5 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, sans parler toutes celles qui ne sont même pas inscrites à Pôle emploi et qui n'ont pas de travail, j'ai entendu qu'il y avait du travail pour tous. Je ne m'attendais pas du tout à ce chapitre, et je le dis d'ailleurs, c'est un chapitre dans mon livre auquel je ne pensais pas, c'est-à-dire que les propos résistent aux faits. Hein. Les fantasmes sur l'autre résistent à la réalité. Quand vous dites aux gens, il y a 4 ou 5 millions de gens qui sont inscrits à Pôle emploi, ils vous disent, c'est pas vrai. De toute façon, ce sont des feignants. Et en fait, quand on leur demande, et ils m'ont expliqué, la plupart de mes interlocuteurs m'ont expliqué qu'il y avait du travail pour tous en France. Mais la question du contenu du travail ne se pose jamais. C'est-à-dire, il faut aller casser des pierres, m'a dit un marchand de légumes dans une banlieue à Grenoble. Il faut aller casser des pierres, il faut balayer les abords des rivières, il faut retirer de la merde, il faut laver les excréments des autres. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce qu'une vie, au fond ? Qu'est-ce qu'une vie ? Qu'est-ce que le bonheur de se lever chaque matin et d'aller au travail avec un sens de l'existence, de quelque chose qu'on a envie de faire, d'un accomplissement, ne se pose absolument plus. Et dans l'idée que tout travail est plus digne que l'argent que la collectivité pourrait vous donner au titre d'une solidarité. Et moi, la question que je pose et qui est fondamentale, sincèrement, si on me demande d'aller casser des pierres, je ne vois pas pourquoi il serait plus digne d'aller casser des pierres que de toucher une aide sociale et faire quelque chose qui soit d'une autre nature qu'un travail commercial ou marchand pour l'ensemble de la collectivité. Franchement, où est la dignité ? Dans le fait d'aller... Cette idée du travail qui rend digne est une idée très récente et qui ne s'interroge plus, que plus personne n'interroge. Il y a plus de dignité de travailler à faire n'importe quoi que de toucher une solidarité nationale. Je ne sais pas pourquoi, pendant très longtemps, la seule dignité, c'était de ne pas travailler. Il n'y avait que les gens indignes qui travaillaient, et les nobles, eux, étaient dignes et ils ne travaillaient pas. Donc c'est une notion éminemment historique, hein, et que plus personne n'interroge. Je crois que le drame, c'est cet ensemble de poncifs et de lieux communs qui sont repris dans les discours médiatiques, la publicité, politique, et qui ne sont plus interrogés, et qui finissent par créer une propagande et une contamination des esprits, et réfuter tous les lieux communs. Je trouve ça fondamental, mais je ne sais même pas comment on va réussir à lutter contre la propagande qui est en route et qui est un laminoir de la pensée.
Une question, quelle utilité y a-t-il pour l'organisation économique à ce qu'il y ait de la pauvreté ?
J'ai posé une question sur l'utilité de la pauvreté. Je pense que si la pauvreté perdure dans les sociétés modernes, c'est qu'elle est utile. Et qu'elle est utile, c'est pour ça que moi je n'aime pas ce terme d'exclusion. On n'est pas exclu, on appartient à un ensemble. Et les gens pauvres font partie de cet ensemble et stabilisent l'ensemble, si je puis dire. Ils ont diverses fonctions. Et d'ailleurs, quand j'ai posé la question à mes interlocuteurs, vous croyez que les pauvres sont utiles en tant que pauvres, bien sûr, très, très majoritairement, les gens m'ont répondu « Mais évidemment que les pauvres sont utiles. » Alors, d'ailleurs, en contradiction parfois avec les propos extrêmement violents qu'ils avaient pu tenir par ailleurs, mais la pauvreté a toujours été utile, d'abord pour avoir de la main-d'œuvre pas chère. Hein. C'est ce que Marx appelait l'armée de réserve. Et je crois qu'elle est encore plus vraie que jamais. D'ailleurs, on le voit bien, les plus pauvres ont toujours plus pauvres qu'eux, puisque dans d'autres pays, il y en a des plus pauvres où on va envoyer le travail pour qu'ils soient encore moins chers. Donc ça, c'est un des rouages essentiels des sociétés capitalistes et du capitalisme effréné dans lequel on est. Et on le sait bien. Donc les pauvres sont utiles pour les non-pauvres. Ça, c'est incontestable. Pour faire des travaux que des non-pauvres ne feraient pas. Donc il y a des tâches subalternes dans la société à faire qui doivent être bien remplies par quelqu'un. Bah, c'est rempli par les pauvres, parce que les pauvres, ils n'ont pas le choix de toute façon, donc on peut leur faire n'importe quoi. Donc il y a toutes sortes d'utilités comme ça. Il y a des utilités aussi de représentation. C'est-à-dire, il faut avoir plus bas que soi pour se dire « je ne suis pas si bas », pour pouvoir se mesurer dans une, comment dirais-je, dans quelque chose qui... on n'est pas encore dehors, quoi. On n'a pas encore chuté, il y a bien plus pauvres. Et d'où ce ressentiment parfois à l'égard des plus pauvres, parce que comme une espèce de terreur à se regarder dans un miroir qu'on pourrait peut-être devenir, donc qui explique une partie de la violence hein, d'ailleurs. Hein. Mais je ne vais pas tout développer parce que je peux continuer, on va pour quelques heures, ça avec grand plaisir, mais une autre fois.